Taisez-vous donc, bande d'anarchistes de Radio Bip. Voici, parce que la droite prend le pouvoir aujourd'hui. Attention, on va. Radio Bip change totalement sa cutie et jingle.
La seule émission qui n'a pas de nom.
La seule émission qui n'a pas de nom, c'est bien. Parce que c'est dans tes oreilles. Cool. Hein. Bon, ça a pas de nom. Ça a pas de nom. Comment ça? Ça a pas de nom. Ça a pas de nom.
Bon, pas de nom.
Ça a pas de nom.
Bah, ça a pas de nom. C'est n'importe quoi.
Bon.
Bah, c'est n'importe quoi.
Ça a pas de nom.
Non mais.
Tabalapapa. Oh oui, tagalapapap. Et vous savez quoi, aujourd'hui je n'ai pas du tout préparé de monologue d'introduction. Tellement j'ai rien préparé, je n'arrive même pas à le dire. Alors je vais vous expliquer que vous écoutez la seule émission qui n'a pas de nom. Une seule émission politique où un type en dessous du seuil de pauvreté reçoit des élus pour leur poser des questions à la con. Aujourd'hui il fait presque beau. Je me suis pris un petit peu de grêlon en venant. J'ai eu peur que mon invité n'arrive pas. Et ça va pas arranger nos relations, puisque comme je suis un sale gauchiste, ben, j'ai beaucoup d'a priori sur les gens de droite. Alors il va falloir que monsieur me démontre que la droite, c'est bien. Qui sait? On va y croire. En tout cas, monsieur Roslo a l'air content. Monsieur Glouz, presque. J'espère que ce n'est pas juste de la politesse, hein, parce qu'en vrai, il y a rarement personne qui rit à mes blagues. Ce monologue d'introduction en total freestyle, je pense qu'on va vite l'achever. Je vais vous expliquer quand même comment ça se passe, cette émission. On commencera par parler de l'invité, de sa vie, de ses combats, de son fils, sa bataille. Ensuite, nous parlerons de ce qui se passe dans notre belle ville de Besançon et autour, et pourquoi pas dans la région. Nous ferons les petits questionnaires à la con. On arrivera à découvrir si notre invité est vraiment de droite. Et pour finir, nous élargirons le prisme de l'actualité. Waouh, j'ai tenu, j'ai fait mon monologue d'introduction sans l'avoir préparé. Je suis fier de moi, je suis prêt pour travailler sur les grosses radios qui passent de la pub. Mon invité est Jean Roslo, conseiller municipal d'opposition UMP à la ville de Besançon. Bonjour monsieur Roslo.
Bonjour.
Alors si vous pouvez vous rapprocher à oui. peine du micro, oui, ce serait oui, bien pour tout oui, le monde. Je disais, tout prend un peu de place.
Ouais.
Est-ce que vous connaissez un petit peu l'émission?
Un petit peu, oui, je sais. Pascal Bonnet, mon collègue, est passé, et donc j'ai entendu, oui, un petit peu, oui. Et je la trouve très bien, parce que ça me change tellement des émissions conventionnelles, hein, type France ceci, France cela, radio machin, radio truc. Je trouve que la manière dont vous l'annoncez, ça me donne un coup de jeune, et puis un coup de voltairien, je dirais, ça m'amuse bien, oui.
Ouais, c'est vrai qu'ici, c'est pas une émission du tout conventionnelle, c'est plus une émission con.
Même ah si oui, on... con. Ah oui, d'accord.
Même si on va parler quand même de choses intelligentes.
Mais l'art d'un grand journaliste ou animateur comme vous, c'est justement arriver à parler de messages sérieux, profonds, à travers une forme décontracte, rigolote, provocante, voilà.
Eh bien, provoquons, je vous montrerai peut-être mon sexe pendant l'émission. Bon, ça, c'est un peu trop loin. Bon, on va parler de vous, monsieur Roslo. Alors, d'après ce que dit votre fiche Wikipédia, vous êtes né en 1945 à Belfort.
Ouais.
Ça va, vous avez de la chance, vous êtes né juste après la guerre.
Ah, juste, oui.
J'ai perdu ma feuille, mais ça va revenir. Donc, Belfort, où vous avez commencé votre carrière politique.
Oui.
Vous avez été député de 93
ouais,
à 97.
Oui.
Une belle expérience ou...
Ça vous étonne, hein?
Bon, ouais. Ça m'étonne. Vous ayez gagné un mandat, oui, parce que c'est à peu près...
J'aurais pu beaucoup me le dire, tu pourrais encore y être, mais bon, j'avais des contraintes familiales. Après ma défaite de 97, j'ai été battu comme tout le monde, si je puis dire, après la dissolution, cette connerie, hein, cette connerie à la Chirac, là. Eh bien, j'ai repris mon travail d'universitaire à Besançon, à la faculté de droit. Et puis, j'avais mes enfants qui étaient ici, ma femme qui avait son boulot ici aussi. Donc, voilà, j'ai changé de département. Voilà. Mais ça fait quand même quand j'étais député de Belfort, j'ai toujours habité Besançon. Je prenais le train tous les jours. C'était rigolo. Et alors, j'ai toujours aimé travailler dans le train, si ça vous amuse. Hein. J'avais des collègues
comme
éminents.
Contrôleur.
Hein?
Comme contrôleur, petite
blague. Ben, des fois, j'étais tout seul avec le contrôleur, oui. Alors, j'avais des collègues éminents, plus éminents que moi, universitaires, qui dans le train s'endormaient, mais moi, je disais toujours, c'est l'effet psycho-ferroviaire. Je corrigeais mes copies, j'ai fait ma thèse dans le train, vous voyez, j'en ai fait des allers-retours, oui.
Comme quoi, le service public, ça a aussi du bon.
Voilà.
Vous l'avez dit, vous êtes maître de conférence en droit privé.
Public.
En droit public. Ouais. Eh ben, Wikipédia s'est trompé parce que j'ai recopié. Et je me demandais, il y a une phrase de Coluche qui dit, enfin, vous avez fait votre carrière en droit, mais après, pour ce qui est de la politique, vous avez tout fait de travers un peu, non?
Ah, bah non, parce que j'ai occupé, vous savez, pourquoi d'après vous j'aurais fait de travers?
Bah parce que vous perdez beaucoup de mandats, mais on en parlera après.
Ouais. Bah oui, mais la politique, ça va, ça vient. On est élu, on est battu. J'ai été maire de ma petite commune natale 18 ans, là, dans le territoire de Belfort. Alors, effectivement, à Besançon, j'ai été battu en 2001, en 2008. Mais vous savez, on s'y attendait quand même un peu. Hein. Quand vous avez un rouleau compresseur, quand vous avez le maire qui a 50 adjoints payés à ne faire que ça, c'est pas facile hein, de se battre. Hein. C'est pas facile du tout. Vous, les... Comment dire...
Les salgauchis.
Ah, oui, vous pourriez vous y intéresser parce que ça marche sur beaucoup d'argent tout ça. Hein.
Oui, mais c'est aussi parce que la ville de Besançon est quand même historiquement
oui,
à gauche.
Eh ben oui, on peut le dire aussi, évidemment. Ouais.
Et après, il y a aussi des gens qui disent que c'est votre manque de charisme. Moi, je trouve que vous avez l'air bonhomme et sympa comme ça. Mais,
Oui, je vais vous dire, comme m'avait dit le premier secrétaire de la fédération PS qui s'appelait Bruno Medjaldi, c'est dommage que tu ne sois pas plus connu. Et là, c'est une astuce de Jean-Louis Fousseret qui n'a pas inventé l'eau chaude, mais qui a l'instinct, le flair politique. Mais c'est aussi la règle du jeu, parce que c'est lui qui gère, c'est lui qui est aux manettes, c'est pas moi. Et qui me tient évidemment éloigné de tous les contacts. Et je ne suis l'interlocuteur de personne. Et par conséquent, dans l'opposition, ben, le charisme, par la nature des choses, on n'en a pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en 2008, au scrutin précédent, j'avais demandé à l'un ou l'autre des deux députés, hein, qui est à l'époque Jacques Grosperrin et Françoise Branget, pensant qu'ils avaient, par la nature des choses, un mandat de député, on parle plus d'un député que d'un conseiller municipal, qui avait plus de charisme que moi, par la force des choses, et ben non, et à l'époque, ils n'ont pas voulu. Donc je me suis retrouvé, parce qu'ils n'ont pas voulu, parce que c'est vrai que c'est la fournaise, hein, quand on est dans l'opposition. On n'a que des désagréments. Hein. On bosse beaucoup, on en prend plein la gueule, on a un rouleau compresseur en face de nous, on n'est pas indemnisé. Voilà, moi, j'aurais bien pas demandé mieux. Hein. Mais contrairement à ce que vous dites, vous savez, pour la première fois, j'ai pas repris mes cours puisque je suis en retraite depuis le 1er septembre. Le mardi, le mercredi, c'était mes gros jours de cours. Le mardi, il y a un mois, je suis allé aux journées de l'âge. J'ai été accueilli comme un libérateur. Et pourtant, je me disais... voilà. Et puis, j'étais le lendemain au Forum du handicap. Non, je suis quand même connu. Et puis, en droit public, la moitié des fonctionnaires, et Dieu sait s'il y en a dans la ville, c'est une capitale régionale, départementale, communale, etc., je les ai eus comme étudiants, à la préfecture aussi. Voilà, je suis connu. Alors, le charisme, évidemment, je n'ai pas eu jusqu'à maintenant de... Mais c'est pourquoi je dis aux gens, essayez-moi 6 ans, ça fait 60 ans de socialisme... Mais en fait, tu sais, quand je dis socialiste, c'est un type de gestion, parce que pour le local, on ne peut pas dire qu'il y a des trottoirs socialistes, puis des trottoirs de droite, c'est pas ça. Mais je dis aux gens, essayez-moi 6 ans, et ils verraient. Je gagne à être connu.
En tout cas, c'est difficile de vous couper la parole, monsieur Rosso. Vous avez parlé du fait que vous n'êtes pas assez connu, je vous conseille de faire la Star Academy.
Ouais.
Voilà, c'était une bonne blague géniale.
Voilà, ben, ouais. Mais c'est pas si bête que ça, ouais.
On n'a pas dit que vous veniez d'un milieu agricole, c'est ce que vous m'aviez dit au téléphone.
Mon père était un petit paysan, il m'a élevé avec ma sœur avec ses 12 vaches. Et je n'ai pas vu la mer avant 29 ans parce que tous les étés, je l'aidais.
Vous pouvez parler plus près
oui,
du micro.
Oui. Ah bah oui, d'accord.
Excusez-moi.
Oui. Parce que voilà, donc je disais que je suis né dans une ferme et c'est un grand bonheur rustique. C'était pour moi un grand bonheur avec des parents qui bossaient tout le temps et je les aidais l'été. Je vous dis, mon père m'a élevé avec 12 vaches. Il faisait un peu de lait à l'époque. Maintenant, ce serait plus possible. Et puis un peu de chou, puis un peu de pommes de terre, et puis un peu de céréales. Et puis voilà, il s'en tirait comme ça, quoi. Et puis j'étais habitué à cette vie de labeur, de aussi, j'étais un écologiste avant l'heure, hein, de contact avec la nature, de respect de la nature, d'émotions face à la nature, et puis de le travail, quoi. Voilà, pour moi, chez les paysans, le monde des vacances, qu'on appelle les vacances en général, hein, c'est-à-dire les périodes de juin, juillet, août, voire septembre, chez les paysans, c'est le moment où on travaille de plus. Alors, j'ai toujours été habitué à ça, ça m'a toujours emmerdé de partir en vacances. Voilà, un peu ma personnalité, elle a été façonnée comme ça, quoi.
Vous nous dites que vous avez été écolo avant l'heure, mais alors pourquoi vous vous êtes engagé à droite? Parce que les écolos sont
J'ai été écolo avant l'heure, par exemple, quand j'étais maire de ma petite commune natale, j'avais fait un système de d'assainissement où des écologistes, d'ailleurs du Jura, étaient venus voir, un système d'assainissement individuel. Maintenant, parce que les écologistes, vous voyez, par exemple, Duflo en ce moment, elle fait surtout de la politique, quoi. J'écoutais hier soir, je ne sais plus comment il s'appelle, ou hier à midi, le grand écologiste, photographe, il se marrait, il disait, elle fait de la politique anti-droite, mais les grands problèmes de la nature, de la terre, on va dans le mur parce que le réchauffement, et puis tout le monde s'en fout, parce que le réchauffement, et puis tout le monde s'en fout, parce que les conséquences du réchauffement, tout le monde s'en fout. Là-dessus, les écologistes, on les entre-guerre, hein.
Et voilà. Vous parlez du réchauffement, mais le réchauffement climatique est quand même surtout dû à l'industrialisation et au capitalisme. La droite défend ses valeurs, normalement.
Mais le capitalisme, parce que vous croyez que les pays d'obédience communiste, hein, n'ont pas déversé dans l'atmosphère et puis n'en déversent pas encore, il n'y en reste plus. Hein.
Est-ce qu'il y a vraiment des pays d'obédience communiste? Je ne suis pas sûr.
Non, mais il y en a eu.
Du socialisme au sens marxiste, oui, du terme, monsieur.
Oui, oui. Si vous voulez, le socialisme réel, ce qu'on appelle ce que les communistes appelaient le socialisme réel, voilà. Oui. Hein, et déjà, j'ai toujours bien aimé Edgar Faure, j'ai travaillé un peu avec Edgar Faure, hein, qui disait les tenants du socialisme réel, en voulant parler des communistes, hein, étaient beaucoup moins réalistes que les défenseurs du socialisme dit utopique, comme Proudhon, qui avait prôné la concordance des classes par la synthèse des écoles. Alors que les doctrines socialistes et communistes étaient des doctrines rigides qui ont mené là où on a vu, hein, et Edgar avait cette grande philosophie de la politique, il disait on devrait regarder comment ça se passe en science, où les découvertes sont faites dans l'humilité, où une découverte d'aujourd'hui sera démontrée fausse dans 10 ans parce qu'on aura une autre découverte, et on est humble, alors que dans le domaine social et politique, on pense avoir la vérité, on casse tout au nom de la vérité, on brûle tout, c'est ce qu'on appelle les révolutions, et il disait on devrait s'inspirer de cette méthode de l'humilité pour faire progresser les choses dans la tentative de la synthèse des écoles, comme disait Proudhon. Voilà. Ça y est, j'ai fait mon numéro de vous voyez, je vous bats, hein, sur la philosophie anarchiste, hein, ou pas anarchiste, hein, là, voyez.
Et vous nous parlez de la gauche, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous avez choisi la droite.
C'est une bonne question, Alessandro, c'est une bonne question.
Ça veut dire qu'elle est mauvaise, parce que si un de mes invités me dit qu'elle est bonne,
parce que je me sens, vous voyez, la dernière fois, j'ai fait une liste ouverte, généreuse, à toutes les factions de la société, j'avais de la gauche moderne, j'avais comme on dit, la diversité, etc. En fait, je vais vous dire, on est marqué par son enfance, et j'avais une mère, un père aussi, mais une mère qui était profondément gaulliste, gaullienne, gaulliste.
J'ai cru que vous alliez dire gauchiste.
Mais souvent, je me suis dit que si le phénomène de Gaulle n'avait pas existé, puis ensuite, quand vous adhérez, quand j'ai adhéré aux jeunes gaullistes et tout, ben ensuite, je me suis laissé porter par, peut-être qu'il y avait peut-être un peu trop de droitisme, mais si le phénomène gaulliste n'avait pas existé, où est-ce que j'aurais été? Au centre, à gauche, peut-être, comme tous les jeunes, j'en sais rien. Mais le phénomène, j'ai été happé par le gaullisme, et puis je suis resté dans la mouvance. Alors, on appelle ça la droite, si vous voulez, mais moi, au fond de moi-même, je ne me sens pas plus à droite que gauche. Bien sûr, j'ai des valeurs, comme le travail, quand je vois... Qu'est-ce que je vous dis quand je vois des gens qu'on aide et tout. Écoutez, j'ai été les dernières années, j'ai toujours aimé mon boulot. Voilà, vous voulez dire pourquoi. J'ai toujours aimé mon boulot, j'ai formé des générations de jeunes. Mais vous savez, ces dernières années, ce que je voyais, c'est qu'au moment des examens, vous aviez une trentaine de jeunes, hein, qui venaient, qu'on n'a pas vu en cours toute l'année, hein, qui gueulaient parce qu'il fallait rester 2 heures au moment de l'examen, mais qui venaient pour signer parce qu'ils avaient une bourse pour toute l'année, mais qu'ils n'étaient jamais.
Mais c'est aussi parce que.
Alors, je trouve que ça, si je suis de droite, c'est pour ça. La société vous aide, vous devez rendre à la société.
Alors, ça soulève deux problèmes. Bon, déjà, moi, je l'ai fait. Moi, ce que vous dites, moi, je l'ai fait. Je m'en cacherai pas parce que je n'avais aucun revenu. Je ne trouvais veut pas de travail.
Ben oui, mais très
de 18
bien.
À 25 ans, on a le droit à rien du tout, monsieur Roslo.
Eh ben,
donc il faut bien avoir des revenus. Les seuls revenus qu'on peut avoir, ce sont les bourses universitaires.
Oui, mais vous pouvez avoir le RSA quand
non,
même.
Non, en dessous de 25 ans, on peut pas. Il faut avoir travaillé deux ans sur 3 ans. Et pour, alors, quand on a travaillé deux ans sur 3 ans, on a le droit au chômage.
Bon, mais moi, je trouve très bien que vous ayez une bourse universitaire, mais vous n'avez pas en même temps essayé d'étudier alors.
Ben, si, j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc après, je suis resté jusqu'à la fin de l'année pour toucher ces
ça
400 euros qui sont d'ailleurs très peu d'argent.
Vous êtes, oui, c'est vrai, je reconnais. Oui, mais enfin, quand vous en avez 30, 40 et des milliers, et des centaines de milliers, et puis vous étiez inscrit, si ce n'est pas indiscret, dans quelle discipline?
Ce n'est pas vous qui posez des questions, ça s'intéresse à vous, voilà, mais c'était juste pour vous donner un exemple. Et puis vous
se
vient un autre
problème. Oui, mais bon, d'accord, si vous voulez.
Mais bon, après, vous parlez de l'assistanat, mais les
mais je ne pense pas que vous le faisiez dans des conditions si arrogantes. Parce que les gars, ils viennent, ils signent, et puis attendez, ils voudraient partir au bout de 20 minutes. Hein, ils veulent même pas attendre les délais normaux pour partir, alors qu'ils ont été bon. Enfin, moi, je vais vous dire, j'ai été faire des cours aux États-Unis au moment de la présidentielle de 2007. J'ai fait des conférences. J'ai vu des jeunes étudiants qui empruntent et qui font de la plonge pendant 15 ans, et puis qui étaient tout contents pour faire les études. Je me suis dit, bon sang, mais quelle différence! Alors, c'est deux extrêmes. Je veux bien, mais je pense que quand voilà, si la société vous aide, il faut aussi tâcher de lui rendre. Moi, j'étais boursier aussi, moi. J'étais boursier avec mes 12 vaches, là, mon père. On n'avait pas assez d'argent. Ben, j'ai toujours été fier de rendre aussi un peu à la République. Hein.
Voilà. C'est sûr. Mais vous parliez un peu d'assistanat, mais est-ce que les vrais assistés, ce ne sont pas les personnes qui naissent avec une fortune colossale?
Ben, écoutez, si vous voulez de ce projet... Ah ben, alors ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y aura toujours des gens, le fils Mittal, bon, ben, il a eu la chance d'avoir son père, c'est sûr. Moi, je suis né avec mon père qui avait 12 vaches. Eh ben, je pense que j'ai, voilà, je pense que chacun a sa chance. Le bonheur, c'est de faire ce qu'on aime. Alors bon, je sais, les personnalités sont diverses. Est-ce qu'il y en a qui aiment ce qu'elles font? Est-ce qu'elles ont envie de travailler? Est-ce que, je sais bien. Vous savez, j'ai été à la remise du prix Louis Pergaud, qui a été décerné vendredi soir à l'hôtel de ville à Joseph, que vous connaissez bien.
Pinard.
Et Joseph Pinard sonore, il y en a eu des titres, il a été élu. Il sonore, vous savez, du titre dont il sonore le plus, c'est boursier de la République. Parce qu'il a été boursier aussi, il a été député, il a été, voilà.
D'accord, bon, on va éluder ce sujet et on va embrayer sur ce qui se passe un peu dans notre bonne ville de Besançon.
Ouais, ouais.
Vous nous l'avez dit, vous avez échoué à deux reprises en 2001, en 2008, face à Jean-Louis Fousseret.
Ouais.
Qu'est-ce que vous n'auriez pas fait, qui a été fait par monsieur le maire, si vous aviez été élu maire?
Alors, bonne question. J'aurais tout de suite mis fin à des véritables scandales, dont je m'étonne toujours que les Byzantins ne relèvent pas encore que. Je prends un exemple. C'est de la gestion, hein. C'est pour ça que c'est pas de droite ou de gauche. Jean-Louis Fousseret, j'aurais été certainement maire et en même temps président du Grand Besançon, d'accord?
Ce qui arrive souvent.
Voilà, c'est deux administrations différentes. Le Grand Besançon, la mairie, c'est à peu près 2000 personnes, hein, tout compris les services techniques, tout ça. Et puis le Grand Besançon, c'est à peu près 400 personnes, l'administration du Grand Besançon. C'est une question de pure gestion, franchement, qui n'est ni de droite ni de gauche. Hein. Où sont logés les 400 personnes du Grand Besançon? Il faut bien les loger, ils ont du bureau, ils ont besoin de bureau.
Bon. Je parie qu'ils sont dans le Grand Besançon.
Alors, elles sont logées à la City. Où et comment? Le Grand Besançon loue à des sociétés bancaires, hein, loue à des banques, les capitalistes, comme vous dites, les cadeaux aux banques, loue pour 450 000 euros de loyer, pas rien quand même 450 000, oui. 450 000 euros de loyer par an. Hein, le gars qui en poche, 450 000 euros de loyer par an. À la City.
100 000
alors que Jean-Louis Fousseret s'apprête, parce que ça va commencer dans les jours qui viennent, malgré tout ce que je peux faire, s'apprête à raser tous les bâtiments de la caserne Vauban, hein, que un d'entre eux serait gardé, restauré, parce qu'en 10 ans, 400 000, ça fait quand même 4 millions d'euros, serait restauré. Non seulement on sauve un peu de patrimoine, parce que dans le quartier de Montrapon, il n'y a pas beaucoup de patrimoine, mais c'est pas ça le plus important. Non seulement ben, on finirait par faire des économies, plutôt que de jeter l'argent par les fenêtres chaque année, mais en plus, on serait admirablement placé pour les 58 communes du Grand Besançon, les va-et-vient entre leur mairie, les maires qui viennent sans arrêt, plutôt que de s'emmerder à descendre d'un lucifère et puis aller au bord du Doubs, puis en plus de se garer et tout. Il y aurait toute la place voulue. À Dijon, ils sont pas si cons, comme vous dites. Ils sont pas si cons. Ils ont pris la caserne de Lay. Ils l'ont restauré. Elle est magnifique, d'ailleurs. Ils l'ont arrangé et tout. Et ils logent. Voilà. C'est la connerie pure. C'est un exemple de ce que. Mais je sais pas. J'ai trouvé bizarre que à Besançon ne s'élève pas trop. Quand j'en parle aux gens, ils disent ah, vous croyez qu'ils vont raser? Mais j'ai dit bien sûr. Ça va commencer les temps prochains. Voilà un exemple de connerie gestionnaire que j'aurais pas faite. Et reconnaissez que ça n'a pas beaucoup de couleurs de droite ou de gauche. Et c'est simplement de la bonne gestion.
Et une autre connerie, comme vous dites, qui a été sûrement faite, enfin que je pense que vous avez pensé que c'est une connerie, c'est très bien dit, c'est le tramway, non? Je pense que vous
alors le tramway. Bien sûr que si vous allez dans des grandes villes, type Strasbourg, etc., c'est moderne, c'est rapide, c'est propre, c'est magnifique, c'est glamour. Mais je vais vous dire une chose, on n'est pas à Strasbourg. Mais... Et l'enjeu, c'est le déplacement rapide des gens. Fouseret dit, oui, ça va être attractif, mais on n'est pas là pour faire une tour Eiffel qui roule, on est là pour résoudre les problèmes de déplacement des gens. Or, je n'arrive pas à comprendre qu'un socialiste, un bon socialiste comme Jean-Louis Fousseret, qui se fait toujours le chantre de la lutte contre les inégalités, avec le tramway, tout glamour qu'il soit, avec les accotements, engendre deux énormes inégalités. Et vous qui êtes de sensibilité de gauche, je ne veux pas poser de questions, mais je suis sûr que vous...
Je ne m'en cache pas.
Vous êtes plutôt pour l'égalité. Si vous n'avez pas pu naître avec une cuillère en or dans la bouche, vous êtes au moins pour vous avez au moins le sentiment d'égalité, comme moi. Bon. Deux énormes égalités. Il y aura pour un tiers de la ville, c'est-à-dire la partie sud, sur la ligne centre-ville Planoise-Orchamps, il y aura la Rolls. Et puis les autres, ils auront quoi? Parce que moi, je vais vous dire une chose, je serai salarié d'une entreprise, employé ou ouvrier.
Si j'étais salarié.
Si j'étais, je serais. Bon. Je serai fonctionnaire, travaille au centre-ville. Je serai lycéen, je serai ménagère et j'habiterai les Torcoles, Saint-Claude, Mont-Rapon, Mont-Boucon, Tilleroy, Saint-Ferjeux. Mais je me sentirais vachement floué. Je me sentirais discriminé. Je me dirais, mais ils se foutent de notre gueule. Et nous? Alors qu'est-ce qu'il y a? Il répond, Jean-Louis Fousseret, il répond, toujours les bus. Oui, avec ce qui va avec, les embouteillages, les feux rouges, etc. Il y avait un autre système pour être égal, c'est-à-dire un tramway pour toute la ville. C'était le bus à haut niveau de service, c'est ceux qui font à Metz, c'est ceux qui vont à Toulon. Je vous renvoie à la presse.
Mais ça renvoie les mêmes problèmes que les bus normaux par rapport aux embouteillages, aux feux rouges.
Mais pas du tout, tout est là. Allez à Metz, ils font le bus à haut niveau de service, il y a des travaux partout. Parce que le bus à haut niveau de service, c'est ça que les gens ne savent pas, ne comprennent pas. Malheureusement, il n'y en a pas dans la région. Le bus à haut niveau de service, il est mis en site dédié. C'est un bus rapide comme le tram. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de feu rouge, il n'y a plus rien. Il est mis en site dédié comme un tram.
Ça aurait généré les mêmes soucis au niveau travaux
et commerce. Vous avez des travaux en surface, mais vous n'avez pas des travaux en profondeur. Est-ce que vous avez vu dans l'avenue Fontaine-Argent, il a fallu... exfiltrer le collecteur d'égout, un truc, une ellipse en pierre de taille sur toute la longueur de l'avenue. Il a fallu le casser et l'extraire, qui ne demandait rien à personne parce que le poids n'aurait bon, ou bien les pieux qu'il a fallu mettre aussi sur le quai Vauban. Voilà. Alors, le principal, alors moi je vous dis, la première inégalité, c'est qu'il y a la Rolls pour les uns puis rien pour les autres. Puis la deuxième inégalité, mon cher Alessandro, c'est que vous fassiez tram ou pas tram, il y aura encore au moins la moitié des gens qui seront obligés, de nos concitoyens, ils seront obligés de prendre la voiture.
Tous ceux qui sont dans la communauté d'agglomération.
Non, je ne parle même pas de ceux-là. C'est le grand Besançon qui paye en plus, ce n'est pas la ville. Je ne parle même pas de ceux-là. Je parle de... Regardez, Saint-Claude, comme l'habitant, 15 000, 20 000. Torcoles, Mont-Rapon, Mont-Boucon, Saint-Ferjeux, Tilleroy, à Saint-Ferjeux. Mais je serais fou, moi. Où il passe le tramway? Dans les jardins familiaux. Il dessert les peupliers de l'avenue Mitterrand. Il dessert les peupliers de l'avenue Mitterrand, les jardins familiaux, puis le casino de Saint-Ferjeux, qui est à 1,5 km, Tintin, il n'y a rien. C'est n'importe quoi.
En tout cas, vous avez de la gauche, monsieur Rosselot. C'était bien de taper sur la gauche. Maintenant, on va parler de votre camp, parce que localement, c'est pas la fête non plus au niveau UMP. Vous nous l'avez dit, votre collègue conseiller municipal Pascal Bonnet se présente, mais vous aussi.
Oui.
Vous, donc, il y a des scissions internes, on peut dire ou pas?
Ah ben ça, il a tout à fait le droit. Vous savez, pour cette scission, il y en a une pas mal, hein, entre copains et Fillon, mais chacun a le droit de... C'est le...
Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que lui, il est
pas
un peu plus...
Pas du tout, pas du tout. Ben, non, mais je veux dire...
Vous êtes plus copains ou Fillon, vous?
Moi, j'étais comme tout le monde, j'étais embarrassé, je les aime bien les deux. J'avais la procuration de mon fils qui n'était pas là. Eh ben pour lui, j'ai voté copé, puis moi, j'ai voté Fillon. Voilà, comme ça, j'étais tranquille.
Ça, c'est de la belle langue de bois. Donc, voilà. On va
non,
on va
mais,
parler
non,
lequel.
Mais Pascal Bonnet a tout à fait le droit d'être candidat. Moi aussi, il y aura une désignation. Mais on fait aussi l'apprentissage jusqu'au fond des sujets de la démocratie. Hein. Ça a un coût, hein, les élections. Bon, pas de bol avec les deux nationaux, là. C'est arrivé sur 200 000 votants. Ils sont arrivés à 80 voix d'écart. C'est pas de bol. Mais ceci dit, ça n'empêche que... Voilà, on a... Non, je croyais que vous alliez me parler des... Je suis pas trop content de certains, effectivement, de mes colistiers. Que
oui,
j'ai mis...
du nouveau
ouais.
centre.
Que j'ai mis
nouveau
sur
centre,
la, ligue,
la gauche moderne, ceux
ouais,
qui n'acceptent pas
fait,
totalement d'être à droite.
En fait, la politique, vous savez, je ne veux pas dire une chose que vous n'aimez pas entendre, vous, à gauche, mais là, c'est quand même un métier, quoi, parce que j'ai mis des gens, justement, par générosité, je n'ai pas regardé quel était leur diplôme.
Vous parlez de Mireille Piquignot, Martine Janin.
Je ne veux pas citer de nom, mais j'ai mis des gens qui, d'horizons, allez, on va dire, très divers. Martine Janin, elle avait passé quand même 30 ans chez Veil, une ouvrière, etc. Bon, Mireille Piquignot, incarner la société française multiculturelle d'aujourd'hui, voilà, puis j'étais tout content et tout. Bon, ils sont, la logique aurait voulu, la loyauté aurait voulu, hein, le minimum en politique, c'est la loyauté, c'est le ciment de... la politique, c'est une aventure collective, que ce soit à gauche ou à droite. C'est Hollande qui dit ça d'habitude, hein, tout le monde. Et le ciment de l'aventure collective, c'est quand même un minimum de loyauté. Bon, on a le droit de faire des chapelles, mais il y a quand même un minimum de loyauté. Bon, ils ont cru bon faire leur petite chapelle. Bon, bon.
Ah, c'est parce que parce que c'est surtout des dames, en plus.
Ouais, ouais.
Elles ont fait un... Un
oui,
groupe à côté.
Bah oui, parce que oh, mais c'est même comique, parce que voilà, il y en a deux qui ont fait un groupe à côté. Alors il y a une troisième qui est arrivée, qui s'est mise avec elle, que j'avais, hein, parce que c'est quand Edouard Sassar a démissionné, donc elle est montée naturellement par le cliquet, et puis qui était pourtant qui était bien estampillée UMP, bon, elle s'est mise avec les deux autres. Et sur les trois, il y en a deux qui ont mis la troisième dehors. Donc, ça fait un, quand on dit je compte, il y a le groupe, le noyau dur, UMP, moi, Bonnet,
Omori,
et puis Girard. Et puis, il y en a deux qui sont dans un groupe, je ne sais plus comment, droite du centre, ou quelque chose comme
ouais,
ça.
Centre droit, on va
et
dire.
Et voilà. Et puis, il y en a une qui est dans son groupe toute seule, centre droit. Et puis, nouveau centre, c'est théoriquement toujours avec l'UMP, mais bon. Mireille Péquignot, on ne la voit plus du tout à nos réunions de préparation du conseil et tout. Bon, voilà, mais c'est pas grave. Oh là 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 là, je l'ai dit aux journalistes, la droite est en morceaux du point de vue du corps, mais du point de vue de l'âme, elle est intacte et j'espère bien l'incarner et j'espère bien gagner cette fois-ci.
Et si vous n'avez pas réussi à fédérer votre petit groupe
oui,
UMP
oui,
de conseillers municipaux,
oui.
Comment vous pensez mener à bien la gestion d'une ville?
Ah ben écoutez, ça, je vous dis, ça n'a aucun rapport, parce que quand vous êtes à la tête d'une ville, hein, je vous dis, j'ai 40 ans de vie locale, j'ai été vice-président du conseil régional. Et j'étais chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la coopération transfrontalière, et j'ai dirigé mes services à ce moment-là à la région. J'ai jamais eu de problème. J'ai été maire 18 ans, j'ai jamais eu de problème. Là, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des individualités dont je n'avais pas pensé qu'elles seraient individuelles à ce point. Bon, voilà. Ah, mais je vais vous dire une chose. Ma liste, la prochaine fois, je prendrai des précautions. Je n'avais jamais fait ça dans ma vie.
Que
mais...
des blancs hommes de l'UMP.
Ah, bon, bah, arrêtez, mais non. Mais il y aura... Mais pas arrêtez, mais n'importe quoi. Mais non, je ferai simplement signer un acte de loyauté, hein, qu'on est en droit d'exiger d'une équipe. C'est normal. De tout, je dirais, voilà, vous signez un acte de loyauté, vous vous engagez à rester loyal à un parti. Évidemment, si je devenais Malade ou cinglé, chacun pourrait reprendre sa liberté, mais en, disons, on va dire en condition normale d'évolution, chacun doit rester, prendre, signe un engagement comme quoi, s'il veut faire son groupe, eh ben, il démissionne du groupe. Parce que c'est quand même, c'est ça qui est malhonnête quand même. Vous vous faites élire. Les personnes que vous avez citées, je ne veux pas répéter leur nom, jamais elles n'auraient été élues.
Les Walt Disney, comme vous les avez qualifiés dans la presse bisontine.
Un petit peu.
Mais ça veut dire quoi d'ailleurs? Parce que les Walt Disney, ils sont gentils, ils ne font pas des petits coups de pute comme on vous a fait là.
Oui, c'est vrai, mais j'ai été gentil aussi, moi. En tout
donc
cas, ça fait rire.
Disney,
ça fait rire, ça fait rire, ça fait rire tout le monde. Ça fait rire tout le monde, ces conneries-là. Je veux pas revenir sur. Leur comportement, ça fait quand même un peu rire, quoi.
D'accord,
mais je ferai quelque chose de déontologique. Je ferai prendre un engagement. Un engagement comme quoi on reste solidaire, sinon on change de groupe. Parce que ces personnes n'auraient jamais été élues si elles n'avaient pas été sur ma liste. Et puis, tu vois, sur ma liste, elles reprennent le large. Bon, c'est pas très honnête, quoi.
En fait, l'UMP, c'est un peu comme un groupe de rock. Hein. Ça split souvent, comme on dit dans le monde du rock. On va se détendre un peu, monsieur Oslo, puisque c'est la moitié de l'émission, à peu près, un peu plus.
Ouais.
Et on va voir si vous êtes vraiment de droite. J'ai fait un petit questionnaire à la con que j'ai écrit à 3h du mat hier, donc il doit être très bien écrit.
Ouais.
Vous êtes chez quelle banque?
Oh bah alors ça c'est une banque de, on va dire, d'esprit de gauche, le Crédit Mutuel.
Ah oui, c'est vrai, même si ils font les mêmes saloperies que les autres banques.
Mais j'ai aussi un compte avec ma femme à la BNP, oui, c'est vrai.
Ah,
pour moi c'est surtout le Crédit Mutuel, oui.
Vous êtes entre deux eaux pour
si
le moment.
Si on veut, si on veut. Mais la BNP c'était parce que c'était la banque la plus proche de chez moi autrefois. Voilà.
D'accord, vous êtes venu comment à Radio Bip? Je vous ai vu venir mais je vais vous laisser le dire.
En voiture, comment voulez-vous que je vienne?
Bah, vous pouvez venir en vélo ou à pied, moi je viens à pied.
Ouais, bah d'accord. Mais on n'a pas continué justement sur les 50% de la population qui seront encore obligés de se servir de leur voiture. Il y a un truc que je voudrais dire là-dessus, mais...
Allez-y.
Ah bah écoutez, ces gens-là, parce qu'il y a la Rolls, et puis il y a ceux qui n'auront pas la Rolls, mais il y a tous ceux qui prennent aussi leur voiture pour aller travailler. Et on aurait pu faire un geste en même temps qu'on faisait le tram. Et ce geste, vous savez, si je suis élu maire, première chose que je ferai pour les gens qui ont leur petite bagnole pour aller bosser...
Créer une autoroute.
Hein, pas du tout. C'est aménager... la place Leclerc. C'est une honte. Vous avez là un cadran de 7 ensembles de feux tricolores. De 7 ensembles de feux tricolores. Alors que comme la topographie est en déclivité, vous pourriez aménager, comme sur le boulevard périphérique, rue de Vesoul, un ou deux passages souterrains, faire un carrefour giratoire de nouvelle génération, reconquérir cette magnifique place Belvédère. On a une vue, la reconquérir, c'est-à-dire sur le souterrain, justement, où les voitures qui descendraient de Montrapon pourraient passer pour aller dans l'avenue de Carrefour, faire une esplanade ou quelque chose comme ça. Après tout, les gens qui vont profiter des aménagements du tram, place de la Révolution ou bien le long du quai, ils avaient aussi le droit. Et la place Leclerc est très, très empruntée par tout Besançon et même à la périphérie. Moi, j'aurais au moins eu ce geste par rapport à ceux qui ne peuvent pas faire autrement que leur voiture, de faire un exemple avec la place Leclerc. C'est scandaleux. 7 feux tricolores, 7. Vous avez calculé, un jour, je l'ai dit à Jean-Louis Fousseret, au moins ménager les carrefours, ce que consomme, il y a 500 000 déplacements en voiture par jour dans Besançon. Si vous multipliez le nombre de secondes perdues à tous ces feux, il y en a beaucoup. Ça fait, j'avais calculé un jour, ça faisait 250 tonnes de carburant par an.
On voit que c'est un travail qui prend beaucoup de temps, conseiller municipal, puisque vous avez le temps de calculer tout ça. Je rigole, bien sûr. On continue le petit. Donc, du coup, la voiture, je la classe à droite, même si elle était petite. Vous préférez envoyer les pauvres en Roumanie ou envoyer tous les riches en Suisse?
Les pauvres en Roumanie et les riches en Suisse. Alors moi, je vais vous dire, la première des choses, moi, je suis prêt à accueillir le monde entier, pourvu que le monde entier respecte la France. Et il est de fait, malheureusement, je ne sais pas de ma faute, c'est ce que tout le monde sait, ça a été montré à Lille, le Valls l'a très bien dit et tout, que les gens qu'on accueille, ils ne respectent pas, ils vous volent, ils vous emmerdent, ils vous pillent, pas tous. Oh. Et là, ben, moi, je dis que... Allez voir en Suisse, justement.
Est-ce que vous êtes fait déjà voler par quelqu'un d'immigration ?
Mais bien sûr, quand j'habitais au centre-ville, le jour du Nouvel An, je m'en rappellerai toujours, j'avais 2-3 copains chez moi, on était au-dessus du bar de l'U, un gars a enlevé ses chaussures, il est monté, et puis il a piqué tous les sacs à main. Quoi,
et qu'est-ce qui vous dit qu'il
parce que la police, après, nous avait donné quelques indications. Non, mais attendez, ne me faites pas dire que tous les Roms sont des voleurs. Moi, je vois simplement qu'on est dans l'Union européenne, mais je dis déjà, il faut déjà faut être ferme là-dessus. Il n'y a aucun pays qui accepte qu'on accueille les étrangers, on les met dans des écoles et tout, c'est très bien. Regardez ce qu'on a fait avec l'utilisation de la maternité.
Bon, c'est magnifique.
Il n'y a pas un pays plus généreux
que la France. Attendez, en plus, je vais quand même pondérer ce que vous dites, ce qu'on a fait à la ce qu'on a fait déjà.
Pour loger les SDF, oui.
C'est quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que d'être dans un abri de nuit. On est accueilli à partir du soir, c'est-à-dire toute la journée.
Je sais bien.
On scale les miches et le matin à 8h30 maximum, on est envoyé manu militari dans la rue. J'aimerais bien vous voir à 8h30 dans la rue, monsieur Rosselot, par cette température, même s'il y a des accueils de jour.
Alessandro, vous y êtes pas.
Et ça coûte.
Vous êtes à côté de la plaque. Moi, j'ai lu dans le journal, j'y vais pas, mais j'ai lu dans le journal que les gens qui passaient leur nuit à la maternité, qui est à l'ultra chauffée, c'est déjà bien, puisque c'était une maternité.
C'est la moindre des choses.
Non, mais trouvez-moi un pays au monde qui fasse aussi bien que ça. Et on les emmène, j'ai lu dans le journal qu'on les emmenait le matin à la buanderie, à faire jeu, pour leur servir le café, le croissant.
Oui, mais est-ce que si vous voulez qu'ils s'intègrent, ces gens-là, ce serait pas plus simple? En plus, il y a des solutions, il y a des HLM vides qui coûte pas cher par rapport à des solutions d'urgence.
Ben, pourquoi pas?
Si les gens, on les traite décemment, la plupart des gens que j'ai rencontrés, des Roms, comme vous dites, ils ne demandent qu'une seule chose, c'est avoir accès au travail, avoir accès à une vie comme tout le monde.
Mais à condition qu'on ait les possibilités. Il y a un gouvernement de gauche aujourd'hui, il n'a pas plus ses possibilités que nous, un gouvernement de droite. Il faut aussi que les gens, vous me dites, j'aimerais vous y voir le matin, etc. Mais attendez, dans ma vie, j'ai été jeune, j'ai eu le bonheur d'avoir la santé.
Vous avez été à la rue et tout?
Vous savez, j'ai fait le service militaire et tout, on a passé des sacrées nuits dehors et tout, j'ai travaillé pour un jour m'acheter un petit studio, et puis voilà, je vois pas pourquoi d'autres ne parce qu'à ce moment-là, si tout le monde fait comme vous dites, qui c'est qui paiera des impôts pour justement aider ceux qui n'ont pas grand-chose?
Il suffit juste de les laisser travailler. Si on les laisse pas travailler,
mais vous me faites rire, les laisser travailler, qui veut les employer pour que je mette chef d'entreprise?
Qui veut les employer? Tout ce qui est dans le bâtiment, ils demandent que ça, ils cherchent la main d'œuvre, restauration. Pareil, mais c'est sûr que c'est plus simple de les empêcher de travailler, de les faire travailler au noir.
Mais on les empêche certainement pas de travailler.
Et si, il y a une liste de métiers. Il y a une liste de métiers que les personnes de Roumanie et de Bulgarie peuvent exécuter.
Absolument.
Sauf qu'il leur faut encore une autorisation derrière que le préfet doit leur donner et qu'il ne leur donne que très rarement, sous l'administration précédente de l'UMP ou sous celle-ci.
D'accord. Mais bon, écoutez, moi je ne suis pas aux manettes, je ne suis, comme vous l'avez dit, qu'un petit qui a été battu deux fois mais qui va gagner cette fois-ci.
Vous faites partie de l'UMP qui a mis en place ces choses-là.
L'UMP qui a mis en place ces choses-là, vous savez, on a beaucoup. Parler du discours de Sarkozy de Grenoble, Aubry avait dit c'est une honte l'année dernière, c'est une honte. Bon, et puis quand Valls les a fait partir, les mêmes personnes, Aubry a dit je suis surprise. Mais je ne dis pas qu'il faut mettre les gens à la porte, je dis simplement qu'il faut du donnant-donnant. Il faut que les gens qui veulent s'insérer donnent des gages de leur insertion, mais c'est normal. Quand vous passez un examen, quand vous allez travailler, vous montrez que vous essayez d'être aussi utile, quoi. Et non pas, on leur a donné de l'argent pour rentrer chez eux, ils bouffent l'argent, ils viennent tout de suite. C'est pas normal. Ou alors ils disent, on peut pas rentrer, et donnez-nous de quoi nous insérer. Et là, il faut être généreux, il faut tout mettre en œuvre, des formations, des écoles. Je pense pas qu'ils soient immédiatement employables. Le problème, c'est l'emploi.
Vous inquiétez pas, moi j'ai travaillé dans le bâtiment. La plupart des gens ne parlaient pas français, on se comprenait très bien, on travaillait très bien.
Écoutez, la fédération des. Moi je vous dis, je serai maire. La fédération. C'est quelque chose, vous savez, qui m'a frappé, ça. Tiens, vous me parlez des Roms, mais permettez-moi de faire un tout petit élargissement. Quand je faisais à pied la place d'Île-de-France et tout planoise en 2008, il y avait des jeunes, un peu comme vous, là, qui étaient le dos au mur, comme vous, je veux dire, de votre âge, le dos au mur, le long de la place d'Île-de-France. Et je leur parlais, et ils me disaient, on ne voit jamais personne de la mairie. Même s'il y a un maire qui est. Je ne parle pas des fonctionnaires, je parle des élus. Même s'il y a un maire qui est payé à faire que ça, 50, 21 adjoints à la ville, 29 vice-présidents à l'agglo, qui sont payés à faire que ça, ils parlaient pas avec eux. Et je m'en étais ému au conseil municipal. Parce que, oui, pourquoi parler avec eux? C'est pas tout de parler avec eux. Mais parce que moi, à l'époque, j'avais des chefs d'entreprise qui m'avaient dit, si t'es maire, organise des vis-à-vis, des mises en vis-à-vis. On va pas traiter les problèmes à coup de règlement. On va les voir, on va parler avec eux. Et au cas par cas, on en prendra un ici, un là. On va regarder l'UIMM, par exemple, a besoin de gens en métallurgie, tout ça. Bon, il faut qu'ils aient aussi envie. Quand on n'a pas de boulot, il faut qu'on prenne ce qu'on propose aussi. Bon, j'ai ramené ça à la mairie. J'ai dit au maire, vous ne faites pas votre boulot. Vous devriez créer des mises en vis-à-vis, quelque chose qui soit humain, fluide, pour être efficace. Bon, et qu'est-ce qu'il a fait, le maire, après ça? Ah ben oui, il a créé, je ne savais même pas, c'est que vous avez la possibilité de créer des adjoints spéciaux qui s'appellent des adjoints de quartier. Il a créé 4 adjoints de quartier indemnisés, évidemment, ça fait 80 000 euros de dépenses de plus pour payer ces indemnités-là, mais quelque chose que j'aurais préféré que les 80 000 euros, ils soient mis à organiser des vis-à-vis entre les entreprises et ces jeunes. Hein. Il a créé 4 adjoints de quartier, il a considéré que le premier terrain comme ça. Ouais, il dit, voilà mon côté gauche et son côté mauvaise droite. Vous voyez ce que
bon,
je veux dire?
En fait, tout est parti de cette question. Pauvre, vous préférez envoyer les pauvres en Roumanie ou les riches en Suisse? Alors, si vous devez choisir.
Mais, attendez, les riches.
Vous pouvez dire ni l'un ni l'autre parce qu'on n'a pas beaucoup le temps.
Mais la gauche est l'artisan de l'Europe. Mitterrand, Kohl, ça a été le
ça
grand.
Ça répond pas du tout
d'Europe.
À ma question. Je veux juste une réponse à cette question.
Attendez, j'ai enseigné le droit toute ma vie. Je peux quand même pas. Le droit, c'est la liberté de circulation. La liberté de circulation, c'est la gauche principalement qui l'a instaurée. La liberté de circulation, ça veut dire
c'est une question rigolote,
un type peut aller, un type peut aller en Belgique, un type peut aller en Suisse, un type peut venir de Roumanie en France, il peut partir en Roumanie. Je ne les envoie
donc,
pas.
Ni l'un ni l'autre.
Alessandro, c'est le. Moi, je suis comme vous. Je préférerais qu'on paye tous nos impôts en France. Effectivement, c'est pas moi qui veux partir de France, mais c'est aussi la responsabilité du gouvernement de créer les conditions favorables, puisque la gauche, principalement la droite aussi, a créé la règle. Le fondamental de l'Europe, libre circulation des hommes et des capitaux. C'est pas moi qui l'ai fait. Alors le droit, il est là. Ma foi, je les envoie pas. J'applique le droit. J'essaierai de les retenir, évidemment.
Arrêtez de prendre toute la parole.
C'est pas un problème municipal. C'est pas un problème municipal.
Enfin, je suis obligé parce qu'il faut qu'on trace, hein, monsieur. Vous parlez beaucoup.
Yes, yes.
Alors, en plus, c'est le petit questionnaire rigolo. Bon, pour le moment, vous êtes plus à droite de trucs de centre.
Si vous voulez, bon.
De quel côté vous portez? Ah, ça, c'est rigolo, ça détend.
De quel côté, je?
Vous portez. Vous ne connaissez pas cette expression?
Ah, non, 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 non.
Enfin, en gros, de quel côté de votre slip tombe?
Quoi? De quel côté?
Non, parce qu'on dit que les gens de gauche on portent à gauche, en gros. C'est-à-dire que leur sexe se mettra du côté gauche quand sur la jambe gauche quand ils mettent leur sous-vêtement ou pas. Vous ne savez pas de quel côté vous portez.
Vous me faites rire, je pense à Strauss-Kahn, dont on disait avant les événements du 14 mai l'année dernière, de gauche, il a juste la démarche. Alors, c'est ce qu'on disait de lui avant les événements. Alors, je lis parce que quand vous portez, bah écoutez, alors c'est ça, c'est de quel côté mon sexe va.
Vous savez pas?
Oh, je sais pas trop, non.
On va vérifier en direct. Non, je rigole. Bon,
de quel côté tombent vos slips?
je vais en prendre encore une ou deux autres questions, puis après on parlera de choses un peu plus simples, un peu plus
consistantes. Oui.
Laquelle je vais prendre? Plafonner les hauts revenus ou supprimer le SMIC? Ah, ça c'est bien pour voir si les gens sont de gauche ou de droite.
Plafonner les hauts revenus. Moi, écoutez, Alessandro, je vais vous répondre, vous me donnez 2 minutes. Malheureusement, je ne vais pas répondre. C'est exactement.
Ah bah c'est pas ça le.
Non,
le but
moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un homme, une femme, pour s'épanouir, il faut qu'il ait un revenu. Hein. Il faut qu'il ait un emploi. Moi, ce que je vois au bout de 40 ans, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi 1800 dans la vallée de Joux, 10 000 au total de jeunes de votre âge font des dizaines, des centaines, des dizaines de milliers de kilomètres par an pour aller travailler là où il y a du travail, là où sont les entreprises, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière, et que les entreprises ne sont pas de notre côté à nous. Qu'est-ce qui fait que ça existe? Ça existe parce qu'on a une culture de 10, 20, 30, 40, 50 ans qui n'a jamais été pour l'entreprise. Si le chef d'entreprise réussit, c'est un voleur parce qu'il a une belle bagnole, hein, et s'il ne réussit pas, c'est un incapable. Or, comme Mitterrand avait dit, on a tout essayé, hein, en matière d'emploi, et c'est l'entrepreneur, malheureusement, pour l'emploi, qui crée l'entreprise, mais encore faut-il, pour être entrepreneur, avoir des gens qui inventent, qui ne dorment pas la nuit. Vous savez, moi, quand je vois Mittal, je me dis quand même une chose, on hurle, mais je me dis, mais quand même, je serai à la place de Mittal, hein. J'irai dire à la télé, mais pourquoi il n'y a pas un Français ?
Et encore, ça répond à la question que vous avez posée.
Alors, non, mais ça répond à la question que vous posez. Vous parlez de haut revenu ou de SMIC. Vous parlez de haut revenu de SMIC. Mais moi, le SMIC, je ne demande pas mieux. Vous avez vu le panneau qu'il y a à Jougne ? Attendez, le panneau qu'il y a à Jougne. Ma question, je viens. Un panneau lumineux où il y a marqué « Jeune, si tu veux gagner 2200 euros, viens t'inscrire à telle boîte demain en Suisse. » Mais moi, le SMIC, c'est pas marrant, non, le SMIC.
Si vous voulez mettre en concurrence la Suisse et la France, moi je veux bien que. Est-ce que vous savez comment vivent les ouvriers en Suisse quand ils sont écrasés d'impôts et ils le vivent beaucoup moins bien qu'un ouvrier français.
Ils sont pas écrasés d'impôts, ils ont des contraintes que n'ont pas les Français, des contraintes de
logement qui est beaucoup plus cher.
Ils habitent tous par des frontaliers, ils habitent tous en France. Hein.
Ah oui, mais moi je dis parce que. Après, il faut se comparer. Ce qui est comparable, un ouvrier suisse, un Suisse qui habite en Suisse, qui est ouvrier, il vit comme une merde par rapport à un Français, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui, si on veut. C'est pas quand même,
je sais, j'en ai connu.
Non, mais ce que je dis, pourquoi ? Mais bon sang, mais au fond, qu'est-ce qui empêcherait que les entreprises, elles se développent en France et pas toujours en Suisse ? L'autre côté de la frontière, c'est faramineux, pile ici, c'est le désert. Parce qu'on n'a jamais poussé, parce qu'on n'a jamais eu le respect du chef d'entreprise, on lui tape dessus, on lui envoie des canettes quand il est sur le terrain en train de se battre avec la concurrence internationale. Alors, moi, je ne suis pas un peu. Que vous me posez des questions un peu trop simplistes, Alessandro. C'est des questions de crivine, ça. Est-ce que vous êtes pour le revenu, le SMIC, etc. Mais tout ça, c'est du. Aujourd'hui, avec la mondialisation, malheureusement, l'emprise anglo-saxonne, c'est-à-dire l'efficacité, la responsabilité, l'innovation et tout, ce sont tous des cadres qui explosent, ça. Moi, je suis pour que les gens gagnent bien leur vie. Eh bien, ils sont obligés d'aller chercher le boulot ailleurs qu'en France. Donc, il faut restaurer l'esprit d'entreprise. Les hauts revenus, je suis d'accord avec vous, il faut les taxer, mais pas au point de les faire fuir. C'est pas moi qui avais inventé l'adage selon lequel l'impôt tue l'impôt. Qu'est-ce que je vous dise ? C'est malheureux de voir ces gens qui partent dans des autres pays, mais c'est là les règles européennes. Puis ils ont le droit. Je voudrais revoir toute l'Europe, démolir tout ce que Mitterrand a fait avec Kohl, la libre circulation. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas pour changer de sujet. Mais vous me posez des questions qui appellent.
Mais c'est le but du truc, blanc ou noir.
Non, mais je voudrais. Qui appellent des réponses qui ne peuvent pas être au coup par coup comme ça, qui se cadrent dans un ensemble de considérations beaucoup plus vastes et plus anciennes. Il faudrait changer, quoi.
Bon. On va quand même faire un petit peu le questionnaire du dictateur parce que tout le monde y a été soumis et ce serait dégueulasse que vous n'y soyez pas soumis.
Mais moi, attendez, j'ai jamais dit que je serais. Vous dites que c'est dégueulasse, mais au contraire, moi.
C'est moi qui aurais mal mené mon émission. Tout serait de ma faute. Ne vous inquiétez pas, monsieur Rousseau.
D'accord.
Même si vous parlez beaucoup, c'est un peu de votre faute. Mais c'est bien, vous êtes un bon client. Donc, le dictateur, pas le temps de faire de mise en situation. Vous arrivez dans un pays dévasté.
Ouais.
Les gens, ils voient que vous avez une belle cravate, que vous avez l'air bonhomme. Et que votre téléphone sonne et vous nomme dictateur de ce pays. Alors, quelle première mesure vous... Mais on va très vite. Hein. Quelle première mesure vous faites en tant que dictateur de ce pays ?
Ah, j'arriverai moi comme dictateur ?
Voilà, ils vous choisissent comme dictateur, le peuple vous met dictateur, le pays est ravagé hein, économiquement et il est ravagé. Il n'y a rien qui fonctionne, plus d'institutions politiques. Vous faites quoi, première mesure ?
Ça, c'est une bonne question. Ça, j'ai souvent pensé à Napoléon, qui n'aurait jamais dû devenir Napoléon, mais rester le premier consul dictateur, mais premier consul ou le dictateur à la romaine, comme Cincinnatus. Voilà. Ce que j'aurais fait tout de suite, les hommes et les femmes, les instruire. Les instruire. Première mesure, les instruire.
Les instruire.
Ensuite, bien sûr, leur donner à manger, évidemment, en même temps, on va dire en même temps. Et puis ensuite, rétablir la tolérance et puis la prospérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus hein ?
Ah, c'est beau, j'en ai la larme à l'œil.
Ben voilà.
Quelle pratique sexuelle vous interdisez en tant que dictateur ?
Ah, c'est une bonne question. Moi, vous voyez, je suis tolérant. Bon, je regarde autour de moi, j'écoute. Il y a des cas, comme vous dites, larmoyants. Mais moi, je suis pour... j'interdis rien, mais j'arrive pas trop à comprendre qu'on puisse avoir des pratiques sexuelles. C'est tellement sensationnel, autre que celles qui sont pour moi les seules et les meilleures, c'est-à-dire homme-femme, quoi.
Ah, ça... On va vous permettre. Donc, homme-femme, mais vous n'avez rien contre les homosexuels ou vous n'avez rien contre le mariage pour tous ou...
Alors, le mariage pour tous, je n'ai pas trop décidé encore. J'ai rien contre les homosexuels, hein, pas du tout. Hein. J'ai des amis qui le sont et tout.
Ah oui, les discours typiques. C'est aussi le... Je ne suis pas raciste, mais...
Je suis mal à l'aise parce que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse trouver un bonheur, un plaisir autre que... Et puis, d'un autre côté, je pense que ça existe aussi. J'ai vu mes amis être contre le Pax et puis finalement, le Pax devenir... faut aussi se remettre en cause devant les résultats, et le PACS devenir quand même un grand succès. Je suis comme je viens de vous le dire, mais je suis tolérant.
Mais vous m'avez pas dit si vous étiez pour ou contre
le mariage. Le mariage, ben honnêtement, je sais pas encore vraiment. Le PACS devrait suffire. Pourquoi? Parce que
pour
le mariage.
Les enfants, il y a des problèmes pour les enfants aussi. Les enfants qui
vivent dans ces
ils ne sont pas reconnus.
C'est vrai. Je préfère ne pas. Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour non plus.
Ok, donc vous ne vouliez pas.
Je suis sensible aussi à ce que dit l'Église, parce que je suis chrétien quand même. Et peut-être que Barbara était un peu loin, mais je suis sensible. J'ai du mal de me situer. Il y a des moments où je suis très net sur la gestion locale, mais il y a des moments où là-dessus, je suis un petit peu hésitant, quoi.
Bah, il faudra essayer peut-être.
Vous avez raison.
La sodomie avec un curé. quelle pratique sexuelle pour rester là-dedans vous imposeriez, enfin plutôt vous promeuveriez, je sais pas comment on dit. J'ai problème de conjugaison aussi dans votre dictature.
Écoutez, je laisserai faire la nature humaine, en matière de
ferme. Vous devez toujours être ferme dans ces cas-là.
En matière de sexualité, les choses se commandent pas. Hein. Je dirais même, il y en a qui vont plus vite que la musique, puisque malheureusement, on déplore souvent beaucoup de viols. Donc, si déjà dans une société, hommes et femmes se contentaient d'obéir à la nature en respectant l'humain.
Donc vous n'imposez pas.
Non, j'imposerai. Vous avez raison. Une question. J'imposerai à tout individu en âge de sexualité et tout de respecter ce qu'il y a d'humain chez le partenaire. Voilà, ça j'imposerai.
Quel art vous interdisez?
L'art?
Art, pas le cochon, hein, le.
Aucun, malheureusement, je n'ai pas eu une culture artistique.
Même le graffiti,
hein? Ah, les graffitis, non, moi je suis contre les tags.
Bah, parce que vous, c'était pas de l'art pour vous, en fait, hein? C'est ça? C'est pas de l'art pour
je
vous,
pas. Ah, je suis pour ceux qui disent qu'il faut faire des murs quelque part pour que s'exprime. Ça peut être de l'art. Mais quand vous avez...
Ouais, répondez-lui en direct.
Non, mais quand vous avez... Quand vous avez je prends les exemples, des fois je vais du côté de... vous avez des bâtiments tout neufs qui viennent d'être faits. Bon, moi j'ai ma porte, rue Péclet, elle est sans arrêt aussi. Ah, ça, je trouve, c'est un viol.
Vous habitez aussi rue Péclet, on est voisins.
Vous habitez rue Péclet, vous?
Oui.
À quel endroit?
C'est intéressant de le dire. Oh, je ne veux peut-être pas le dire à l'antenne, mais c'est marqué dans l'annuaire.
Au 8, non? Au 8?
Non, pas très loin, mais bon.
Moi, je suis au 5.
Ah bon,
c'est au-dessus de l'épicerie, non?
Moi, je suis obligé de défoncer juste à côté de l'épicerie. Bon.
Bon, je ne les ai jamais vus.
On en parlera hors antenne.
Regardez-moi, moi, je suis au 5. Vous verrez ma porte, elle est taguée. Moi, j'estime que c'est du viol.
C'est du viol. Moi, hein.
Alors, je suis pour l'expression. Moi, je ferai des murs pour qu'ils en mettent pas, des murs spéciaux pour ça. Mais des beaux bâtiments tout neufs ou même des privés, moi, je trouve que c'est du viol. C'est quand même lamentable.
Bon, après, les bâtiments sont toujours aussi fonctionnels. Mais c'est un autre débat. À quel pays vous déclarez la guerre en tant que dictateur pour relancer l'économie?
Oh là là, elle est bonne celle-là. Oh ben, pour relancer l'économie,
ça relance toujours l'économie, une bonne guerre. Hein.
Vraiment, à quel pays je déclarerais la guerre? Vous voulez quand même pas que je déclare la guerre? Pourquoi j'aurais des raisons de déclarer la guerre à
parce
un pays
que je vous le demande, tout simplement. Maintenant, vous êtes en situation de dictateur. Un dictateur, ça aime bien faire la guerre, quand même.
Ouais.
Je sais pas, il y a le Vatican. Le Vatican, c'est facile. Hein. Je pense qu'avec une douzaine d'hommes armés.
Pourquoi pas la Corée du Nord?
La Corée du Nord, ah bah oui. C'est bien, en plus, c'est vrai que ça, c'est consensuel, ça.
Je déclarerai la guerre à la Corée du Nord, vous savez pourquoi? La assujettir complètement et lui imposer la démocratie.
Ah, mais ça, c'est très démocratique. quelle population vous extermineriez? Quelle population humaine? Parce qu'à chaque fois, on baise.
Alors là, non. Mais pourquoi voulez-vous? Mais aucune,
parce
évidemment.
Que vous êtes dictateur, il faut quand même.
Si j'étais dictateur.
Dans le moule.
Si j'étais dictateur.
Ça change tout.
Oh là 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 là, mais pourquoi j'exterminerais moi qui prends une sauterelle et qui la déplace?
Par exemple, les boursiers là qui font les petits malins,
vous appelez ça une population? Oh, je les exterminerais pas, mais oui, les récidivistes. Alors voilà, alors ça c'est quand même ce qui tue. Moi, il y a des moments, je me dis que c'est pas normal. Vous voyez, par exemple, à quoi je pensais récemment? Bon, ce type qui vient dégorger cette avocate là dans son bureau, ou bien les types qu'ont là, les jeunes filles, Laetitia, je ne sais plus comment elle s'appelait, et puis encore d'autres qui ont été je dis qu'à la limite, on devrait leur infliger la peine de mort. Ils ont torturé.
Et les erreurs judiciaires?
Non, à condition d'être sûr. Non, mais faut prendre des précautions.
On peut jamais vraiment être sûr avec la justice.
Bah, quand c'est avéré, quand il y a des faits qui sont tout avérés et tout, quand un type a torturé, a tué une gamine, c'est quand même invraisemblable que la société continue à l'entretenir pendant 50 ans, alors qu'il a détruit une vie, une jeune vie. Voilà, si vous me parlez d'extermination, si j'avais un endroit à placer, ce serait là, oui.
J'ai l'impression d'être dans une chanson de Michel Sardou. Et votre dictature prend fin, hein. Hop, on la tue. Comme ça, on va pouvoir juste vite fait parler. Il nous reste 5 minutes puisqu'on a commencé en retard. On va parler de l'histoire Copéfi. On en a déjà vite fait parler, donc on va pas en parler. On va parler de ce qu'a fait le gouvernement socialiste. Vous pensez quoi globalement de l'action des socialistes depuis qu'ils ont tous les pouvoirs?
C'est une bonne question. Je me suis dit, quand Hollande est arrivé à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Plutôt que d'aller me montrer les fesses de... On les a vus, de Trierweiler à...
On avait vu aussi les fesses, c'est beaucoup plus de Carla Bruni, hein.
Ah oui, non, mais d'accord. Ah, à Brigançon, là. À Brigançon,
oh, pas qu'à Brigançon, ils ont sorti des photos d'Ella Walp.
Moi, vous savez ce que j'aurais fait? Et puis je vais être un peu dans le ton de l'émission. Eh bien, j'aurais dit, voilà, je ne vais pas à Brigançon cette année. Je vais louer un consortium touristique américain. Et l'argent qui va être apporté juin, juillet, août de la location de Brigançon, vous pensez que des Chinois, des Japonais se seraient précipités? Eh bien, je l'aurais utilisé pour mettre en vis-à-vis des entrepreneurs et des jeunes locaux qui cherchent du boulot. Voilà, ça aurait eu... Vous savez, en politique, je vous dis une chose, les symboles, c'est très important. C'est quelque chose que Fousseret d'ailleurs a compris, et les symboles, c'est très important. Pour... Voilà, et bien moi, j'aurais commencé par faire ça. Puis, j'aurais pas été en vacances, puis j'aurais passé mon temps à réunir les grandes entreprises en leur disant, c'est pas que j'ai un faible pour les patrons, simplement j'ai un faible pour la compétitivité, parce que c'est la clé de l'employabilité.
C'est ce que lance, vous devriez être content, puisque le Parti Socialiste a fait des annonces, une hausse de la TVA, comme l'UMP voulait dire, qui compenserait des baisses de charges. Enfin, là, ça serait par le biais de crédit d'impôt, mais des baisses de charges pour les entrepreneurs.
C'est pour vous dire la connerie de la politique. Je savais que Hollande, il a été élu en disant pas de TVA, pas de trucs comme ça. Puis finalement, une fois que vous êtes au pouvoir, eh bien, vous le faites. Hein. Il faut bien être démago. Bon, il a été démago, la droite aussi, il est des fois.
Peut-être qu'il a été influencé par les lobbies aussi, non? Parce qu'il y a d'autres solutions pour relancer la compétition.
Baisser
les charges salariales, mais du côté du salarié aussi, non?
C'est évidemment ce qu'il aurait fallu faire aussi.
Parce que c'est les cotisations patronales. Les cotisations patronales qui sont mises en avant.
Voyez, comment dire, là.
En augmentant les salaires, on augmente la consommation et ça relance l'économie aussi.
L'ambivalence et l'hypocrisie de la... Mais oui, mais alors, vous me faites rire, ça relance l'économie, les salaires et tout. Mais la monnaie, les salaires et tout, c'est gagé par une production. Les Allemands sont obsédés par ça parce que dans 1925, ils avaient besoin d'une brouette de billets pour acheter un paquet de cigarettes. Hein, un paquet de cigarettes, il fallait une brouette de billets. On peut toujours faire des billets. Mais si vous n'avez pas la richesse gagée derrière, hein, en France, de Dieu merci, on a une économie qui fait que vous avez 10 euros, ça représente 10 euros. Ça veut dire qu'on peut acheter quelque chose pour 10 euros. Bon, alors c'est bien beau de dire d'augmenter les salaires. C'est comme ceux qui disaient, il faut mettre les gens plutôt à la retraite, ça fera un emploi de libéré. Oui, sauf que le gars qui paye l'entreprise ou les cotisations ou l'État, je ne sais pas quoi, ils vont payer deux plutôt qu'un, et puis ils n'y arrivent plus à payer. Et puis on emprunte, et puis finalement, vous voyez ce qui arrive quand on emprunte trop, quoi. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire, là? Oui, alors à Hollande, ça, vous avez un exemple, mais ça a été vrai aussi à droite, mais de l'hypocrisie et de l'ambivalence et de la démagogie de la politique. Pour se faire élire, il ne dit pas de TVA, et pourtant, le principal intérêt de la TVA, c'était de faire payer un droit d'entrée aux produits extérieurs qui sont...
Mais la TVA, on la paye aussi sur les produits français.
D'accord, mais on la payait aussi sur les produits d'extérieur qui sont fabriqués à des conditions beaucoup moins sociales que les nôtres, mais qui payaient quand même une taxe, justement, de solidarité nationale en arrivant sur notre pays plutôt que de nous concurrencer.
Il n'y a pas plus simple en taxant directement à l'importation les produits...
Moi, je ne suis pas dans l'administration des douanes, mais l'idée...
Non, parce que la TVA, c'est très injuste quand même comme impôt. Moi, je la paye, je gagne 600 euros par mois, je la paye autant qu'un type qui gagne 3 millions d'euros par mois, je la paye au même taux.
Vas-y. Non. Sur les produits...
À la hauteur de ce que je consomme.
Sur les produits de première nécessité.
C'est à 5,5, oui.
Vous payez, moi, je n'achète pas des produits de luxe, pas beaucoup, du moins, mais si j'achète des pâtes...
Je pense que votre cravate est à 19,6, votre chemise est à 19,6, votre blouson est à 19,6 et votre voiture...
peut-être, oui.
Pas des produits de première nécessité.
Oui, c'est possible. Ce sera aussi normal, après la vie que j'ai eue maintenant, que je m'achète aussi de temps en temps, des trucs
c'était juste pour vous.
Mais on est revenu à cette TVA. Vous savez, le choc de compétitivité, il aurait fallu, dès le mois d'août, dire, voilà, on va... Mais Montebourg, d'un certain côté, a eu quand même le effleuré. Il fallait dire aux entrepreneurs, on va vous faire des cadeaux. Dès le mois d'août, on va baisser les charges pour que vous puissiez investir dans l'innovation, le design, pour qu'on puisse concurrencer les bagnoles allemandes. Hein. Mais en échange, vous allez vous engager à embaucher, vous allez vous engager à faire ci, à faire ça, des buts sociaux. Voilà, c'était le donnant-donnant. Et Montebourg a employé ce langage à un moment donné, donnant-donnant. Mmh. Bon, la suite...
Je suis d'accord avec vous, puisque là, sur ce point-là, il n'y a aucune contrepartie qui sera demandée pour le crédit d'impôt aux TVA, aucune contrepartie qui est demandée aux employeurs derrière.
Mais voilà, pourtant,
ce qui est irresponsable, non?
Hein?
C'est irresponsable.
Je trouve, oui. Il aurait fallu, oui.
Bon, vous n'allez pas vous faire...
Je vois que vous suivez bien l'actualité politique nationale, quand même.
Ouais, quand on fait une émission
Comment
politique...
ça se fait que vous n'êtes pas encore présenté, je ne sais pas, moi, dans un... Parce que vous n'aurez des chances d'être élu que si vous êtes au PS. Comment ça, vous seriez un bon candidat?
Ah oui, mais, mais moi, je ne crois pas en la politique, monsieur.
Ah bon, c'est vrai.
Moi, je crois en l'humain et au changement des choses l'intérieur.
Mais c'est vrai que c'est vous qui faites des questions, hein, excusez-moi, mais c'est voilà. Intéressant, quand même.
Ah, comme ça, on l'aura dit. Je voulais juste aborder un dernier point avant qu'on se quitte, parce que...
C'est un interlocuteur intéressant.
C'est la fin de l'émission et donc on m'a parlé de quelque chose qui est arrivé dans le BVV. Il y a eu la promotion d'une association qui s'appelle SOS Future Maman, qui n'est pas ouvertement anti-VG mais qui l'est. Vous pensez quoi déjà du fait que des associations un peu religieuses comme ça se battent contre des droits qui ont été acquis de longue lutte comme l'IVG par exemple?
Je n'ai même pas vu dans le BVV ça tient. Pour moi, l'IVG, c'est un droit acquis, puis terminé, point final. Vous avez des associations qui se battent là-dessus?
Non, mais ils ont parlé de l'association, mais je pense pas que le BVV était au courant, parce que l'association se cache un peu de ses engagements anti-IVG.
Oh, c'est des combats d'arrière-garde. Bon, vous empêcherez pas en démocratie d'avoir toutes sortes de voix qui s'élèvent par-ci, par-là. L'IVG, d'ailleurs, le gouvernement socialiste a été un peu plus loin, là, sur le domaine de l'IVG, non, récemment? Il me semble, j'ai pas pu tout voir, tout lire, mais...
Je n'ai pas suivi.
Si, ils ont fait, je ne sais plus quoi, le remboursement pour les moins de 20 ans, ou je ne sais plus quoi, quelque chose comme ça, en matière d'IVG. Il y a une disposition, enfin, je ne suis pas à l'Assemblée nationale ni au gouvernement, mais il me semble qu'il y a eu quand même une petite... Mais bon, c'est un droit acquis. C'est un emblème, d'ailleurs, de la réforme en matière sociétale, 1974, d'ailleurs, c'est la droite qui l'a fait. Hein.
C'est par la pression d'associations militantes aussi avant, quand même.
Hein,
moi, je dis, il y a quand même pas mal d'associations de
militants
citoyens qui
contre
qui
l'IVG
ont
aujourd'hui.
Qui ont milité, non, pour l'IVG
ah, oui,
à
oui,
l'époque.
Ah oui, oui,
c'est pas
fait.
Le fait des politiques,
tout
c'est
à
le
fait
d'un combat
tout
de la société
fait,
civile.
Tout à fait. Oui, c'est sûr.
Donc, vous diriez. Maintenant qu'ils le savent, je pense pas qu'ils le feront, mais vous pensez qu'il faudrait qu'ils travaillent un peu plus sur ce qu'ils publient, le BVV?
Ah, ben oui, mais c'est pas grave parce que ça m'avait échappé. Pourtant, je le lis quand même assez en profondeur, mais ça m'avait échappé.
C'était un petit encart qui parlait juste de l'association.
C'est possible. Ah oui, qui faisait appel à promo de cette association.
Voilà.
Ah oui, d'accord. Oui. Ah ben oui, d'accord. Ok.
Après, c'est tout magnifique. Nous allons nous quitter, Jean-Rosselot.
Oui.
Je vous remercie d'avoir été là. Vous êtes un bon client. Vous parlez bien. Vous parlez beaucoup. vous voulez. Dire encore quelque chose?
Ah ben écoutez, je suis très content, je connaissais pas trop, mais Alessandro, moi je trouve que vous êtes un bon animateur et un bon interrogateur, et c'est pas souvent que, d'habitude, une interview, on est un peu sur ses gardes, on est un peu rigide, un peu conventionnel, mais tout de suite, moi j'étais content de passer, parce que je me suis un petit peu éclaté, là, j'ai dit ce que je pensais, sympa.
Non, sympa.
Très bien.
Eh ben c'est pas forcément un compliment quand un invité nous dit que... Qu'on a bien fait notre travail, mais...
J'ai eu une liberté de parole. J'ai eu une grande liberté de parole. Je dois dire que vos questionnaires sont assez originaux. Écoutez, ça change encore du conventionnel. Tout en étant originaux, vos questionnaires, par exemple celui du dictateur, effectivement, ça, c'est beaucoup plus coquin qu'on ne le pense, parce que ça renvoie aux problèmes de fond qu'on débite comme ça conventionnellement, puis qu'il n'y a pas toujours beaucoup d'intérêt. Mais ça nous force à nos recoins, ça nous pousse dans nos recoins, et ça nous oblige à démasquer nos pensées les plus intimes, quoi. Je trouve que c'est sympa.
Ah, ils sont pas si cons. Le pauvre de gauchiste, on va se quitter, comme je l'ai dit, et il y a une tradition dans cette émission qui fait que vous avez droit à un dernier mot, mais c'est juste un seul mot, et juste un mot, quoi.
Il y en a deux, ce serait bonne année.
Et ben, vous pouvez l'écrire en
alors,
un mot.
Alors un seul, je dirais un joie.
Joie de vivre. Merci monsieur Rosselot, et la suite de vos programmes sur Radio Bip à midi, vos informations à midi et demi, le magazine Passion. À plus.